Lorsque cette bourse-là était 36 000, 18 000, on paye à les payer. Le paiement de cette bourse-là, en tout cas, a abouti à un meurtre. Parce que, au lieu de payer à partir du 5, cette bourse pouvait être payée à partir du 15, ce qui a mené des problèmes dans les campus sociaux. Si cette bourse-là est augmentée, comment ça se fera? J'imagine que c'est le même État, ce sont les mêmes services. Celui qui ne peut pas payer 36 000 à temps, est-ce qu'il peut payer 40 000 à temps? En voici une autre question.
Donc voilà. vous êtes sceptique. Hein. Alors à Saint-Louis, les étudiants poursuivent la grève, hein, notamment parce qu'ils demandent que les responsabilités soient établies par rapport à la mort de Falloussen. Idriss Fall, où en est l'enquête?
On ne sait pas. C'est l'État qui a promis une enquête après la mort de Falloussen, mais je pense jusque-là, on ne sait pas où on en est avec cette enquête. Il faut rappeler aussi que quand même, ce n'est pas la première fois qu'un étudiant a été tué au Sénégal. Il y a eu un cas en 2001, il y a eu un autre cas en 2014. Et que généralement, je pense qu'on n'arrive pas à juger les véritables auteurs ou bien ça se termine en coup de poisson. Et on espère que cette fois-ci, quand même, l'État va diligenter l'enquête et peut-être sévir s'il le faut.
Mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations qui filtrent.
Mais je pense que ça prendra du temps. Je suis sûr qu'une enquête ne se fait pas en un jour. Le temps que c'était la mêlée, plusieurs policiers ont été blessés à Saint-Louis quand même. C'était des affrontements. Donc je crois que l'enquête va prendre du temps.
Alors, ce n'est pas la première fois, vous venez de le dire, que les étudiants manifestent pour réclamer leur bourse. Professeur Silla, comment expliquer la récurrence de ce problème? Alors peut-être qu'on n'a pas professeur Silla. Dans ces cas-là, je vais peut-être poser la question à Ibrahima Khan. Ibrahima Khan, est-ce que vous êtes avec nous? On n'a pas encore. Alors, Idriss Fall, je vais me retourner vers vous. Ah, voilà. Alors, c'est Ibrahima Khan?
Silla, Ibrahima Silla.
Ibrahima Silla. Donc, c'était bien à vous que je posais la question. C'est pas la première fois qu'on a des étudiants qui manifestent pour réclamer leur bourse. Comment expliquer la récurrence de ce problème?
Mais c'est incompréhensible et on ne trouve même pas des raisons qui pourraient expliquer un tel retard. C'est devenu quelque chose de fondamentalement récurrent à l'université. Et depuis un certain nombre d'années, nous sommes dans cette forme, dans une sorte d'incompréhension. Comment après chaque tuerie, parce que je l'appelle tuerie parce que des étudiants sont tués, parce qu'ils réclament leur bourse, on entend des promesses. Et malgré tout, il y a un problème de réception des bourses qui est assez récurrente. Et donc là, au bout de quelques années, on se pose de véritables questions. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est au niveau des banques qui ont signé un certain nombre de conventions avec le gouvernement que ça bloque au niveau des banques? Est-ce que c'est au niveau du gouvernement qui n'a pas assez d'argent au niveau du trésor public et que ça bloque? Est-ce que c'est une mauvaise volonté d'un certain nombre d'acteurs politiques qui sont tapis dans l'ombre et qui ne veulent pas que les choses tournent en rond? On ne sait pas. Il y a un certain nombre d'investigations qui sont en train d'être menées, un certain nombre d'audits, notamment de l'inspection générale de l'État, pour essayer d'identifier les sources du mal, les sources du problème. Il faut peut-être attendre de comprendre qu'est-ce qui se pose comme problème, d'autant plus qu'il y a des morts d'étudiants d'année en année. Et malgré tout, il y a toujours ce problème qui se pose. Et aujourd'hui, face à cette situation, on se rend compte que, vous avez dit tout à l'heure que le président de la République a cédé. Mais j'ai envie de dire que le président de la République a cédé sur un sujet ou sur un point qui ne faisait pas partie des points de revendication des étudiants. On leur a augmenté leur bourse. Ce n'était pas le point crucial, fondamental, central de leurs revendications. Ce qu'ils demandaient, c'est le départ d'un certain nombre de ministres. Et là, j'ai le sentiment que le président ne va pas céder, puisqu'il préfère sortir de l'argent, puisqu'il préfère augmenter les dépenses de l'État plutôt que de satisfaire cette demande des étudiants, cette exigence des étudiants pour que le ministre concerné, les ministres concernés soient sanctionnés. Et donc là, on est pour le moment dans une certaine sorte de flou artistique, on attend de voir la suite. Certains étudiants aussi de Dakar ont cédé et ont rejoint les enfuis, même si encore certains traînent les pieds. Mais au niveau de Gaston Berger, on se rend compte que les étudiants n'ont pas cédé et restent arc-boutés encore une fois sur leurs revendications pour que la lumière soit jetée, soit faite sur cette question assez pénible.
Alors, professeur Silla, je vais vous couper puisqu'on a Ibrahima Kan qui nous rejoint. Au Sénégal, hein, Ibrahima Kan, les bourses sont accordées à tous les étudiants à partir de la deuxième année universitaire. L'État a-t-il les moyens ?
Madame, c'est ça le grand problème. D'abord, pour moi, c'est une incongruité que dans un pays, que tous les étudiants aient une bourse. La bourse a une valeur symbolique. C'est d'abord un moyen de montrer aux étudiants qui travaillent qu'ils peuvent, que l'État leur donne quelque chose qui leur permet d'aller plus loin. La bourse, c'est toujours quelque chose que l'on donne à un étudiant pour l'encourager à travailler. Mais quand vous donnez une bourse à tout le monde, donc la valeur symbolique de la bourse disparaît. Deuxièmement, le Sénégal est un pays qui a presque, si on prend toutes les universités du pays, plus de 200 000 étudiants. Comment un État qui est en grosse difficulté de créer des infrastructures pour que les étudiants, les élèves travaillent, un État qui est en difficulté pour trouver un bon ratio entre étudiants et enseignants, trouver ces milliards simplement pour payer une bourse à des étudiants. C'est vraiment un grand problème qu'il faut régler. Et je me rappelle qu'il y a 4 ans, non 5 ans si mes souvenirs sont exacts, une structure avait été créée au niveau de l'État pour réfléchir sur l'avenir de l'université. Et une des recommandations de cette structure-là, c'était de réfléchir à nouveau sur la manière de donner les bourses et de mettre en place un système qui est vraiment en adéquation avec l'université sénégalaise. Et jusqu'à présent, cela n'a pas été fait.
Professeur Silla, est-ce qu'il faudrait poser des critères à l'obtention des bourses, les meilleurs élèves ou alors ceux qui ont des conditions économiques plus difficiles ?
En tout cas, le Sénégal, nous sommes dans un pays, on va dire, qui n'a pas les moyens, comme vient de le dire M. Kan. Mais nous sommes dans une situation bien particulière et je pense que quand cette généralisation des bourses obéit à une volonté politique de donner assez de moyens à tous les étudiants pour qu'on puisse en tout cas investir auprès des jeunes, qui ne doivent pas être considérés comme une charge, mais comme une chance pour notre pays. Et cette chance doit être préparée dès à présent en mettant à l'aise des étudiants, en généralisant les bourses. Parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas effectivement cette généralisation des bourses, mais ils ont d'autres moyens à la disposition des familles, à la disposition des jeunes qui ont des revenus minimums d'insertion par-ci, des revenus d'assistance par-là. Dans notre pays, souvent, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et n'ont souvent aucun moyen de survie. Et je pense que l'État a compris cette nécessité d'investir dans la jeunesse auprès des étudiants pour respecter effectivement l'égalité entre les étudiants, ce qui pour certains peut poser problème, puisqu'il faudrait peut-être inclure une dimension, on va dire, équitable, de l'équité, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui n'ont pas besoin de ces bourses, de ces 18 000 francs, de ces 36 000 francs, mais l'État n'a pas voulu opérer une discrimination entre les étudiants et a considéré qu'à partir du moment où on était à l'université, l'État devait venir en aide. Il y a une dimension très symbolique, comme le dit effectivement M.
Kan. Alors parlons... Mais aussi... Excusez-moi, on va bientôt aller à la pause. J'ai une petite question quand même pour Diène Gom, hein, puisqu'on parle des difficultés rencontrées par les étudiants. L'État a du mal à payer la facture, mais d'un autre côté, pour des étudiants sans revenus, ce soutien financier est important. Diène Gom, les bourses entières de 40 000 francs CFA permettent de couvrir quels frais, par exemple, logement, nourriture ?
Effectivement, comme vous l'avez bien cité, cette bourse de 36 000 pour l'instant, parce que la mesure elle n'est pas encore appliquée, elle va entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Donc cette bourse sert notamment à, en tout cas, acheter, payer la chambre, acheter des tickets pour la nourriture, mais aussi acheté quelques livres. Et aussi à l'université Cheikh Diop de Dakar, les étudiants, et partout d'ailleurs, dans toutes les universités du Sénégal, les étudiants font ce qu'on appelle de la photocopie pour certains cours. Donc la bourse sert entièrement à ces choses que je viens de citer, à savoir la nourriture,
le climat de la chambre. Est-ce que sans les bourses, les étudiants arriveraient à poursuivre leur cursus?
Mais comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, sans les bourses, certains étudiants qui ont des parents qui peuvent leur prendre en charge leurs études y arriveront. Mais la majorité des étudiants, en tout cas, n'y arrivera pas parce qu'il faudrait savoir que nous sommes aussi dans un pays sous-développé, s'il faut le dire. La plupart des étudiants qui sont en tout cas au campus de l'Université Cheikh Diop de Dakar viennent des régions du Sénégal les plus reculées. Et notamment, ils vont vivre au campus et par cette bourse-là, sinon ils n'ont pas d'autres recours. Peu d'étudiants ont leurs parents capables de prendre en charge leurs études. Donc cette bourse, elle est en tout cas nécessaire et elle est primordiale pour certains.
Mais sans compter qu'il n'y a pas forcément d'emploi pour les étudiants pour pouvoir financer les études. Regardons.
Effectivement, ça allait être une alternative. Si dans nos campus sociaux, les restaurants, en tout cas tous les services prenaient des étudiants et les donnaient quelque chose en retour à la fin du mois, peut-être ça allait être une alternative.
Alors,
malheureusement, ce n'est pas une politique que nous avons dans nos campus.
Je vous coupe parce que le temps nous manque. Hein. Regardons maintenant les commentaires que nos téléspectateurs ont laissés sur Facebook. Yao Marcelin Kofi, qui est à Abidjan, Côte d'Ivoire, il dit « En Afrique, les étudiants des universités publiques partagent les mêmes réalités, paiement tardif ou non-paiement des bourses, les problèmes d'hébergement, de transport, manque d'amphithéâtre. C'est aussi le lieu de dénoncer la répression des forces de l'ordre qui tirent sur les étudiants à balles réelles au lieu d'utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. L'État sénégalais est obligé de respecter ses engagements pour éviter une autre grève des étudiants. » Méfis Kiti, qui est à Cotonou au Bénin, il a fallu la mort de Fallou pour que le gouvernement puisse écouter le cri des étudiants sénégalais. C'est bien d'augmenter les frais des bourses et réduire le prix des tickets resto. Je doute que le gouvernement tienne ses promesses car il faudra débourser plusieurs milliards de francs CFA. Et je me demande si l'État sénégalais a les moyens. C'est difficile vu le nombre d'élèves qui obtient le bac chaque année. Allez, on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. Avec vous, Morgane Guiriec, gros plan sur la grève des étudiants au Sénégal. Pour en parler, Diène Gomme, président de la coordination des écoles et instituts de l'Université de Dakar. Ibrahima Sylla, professeur en sciences politiques à l'Université de Saint-Louis. Ibrahima Kahn, observateur membre de la société civile. Et à mes côtés en studio, Idriss Fall, rédacteur en chef du service francophone ici à VOA Afrique. L'Afrique subsaharienne comprend la population la plus jeune au monde. Les Nations Unies estiment que d'ici 2030, un quart des jeunes de 15 à 24 ans seront dans la région. Comment les pays africains feront-ils face à cette nouvelle génération qui aspire à étudier et à travailler? Les universités du continent sont déjà débordées. Sophia Christensen nous fait découvrir la plus grande université publique du Sénégal. Récit Lionel Gaïma.
Université Cheikh Anta Diop, Dakar. Même s'il est arrivé 30 minutes plus tôt, Issa Diop doit suivre ce cours de l'extérieur. L'amphithéâtre principal a une capacité de 2000 places. Il y a plus de 3000 étudiants de deuxième année en droit comme Issa.
Je vais essayer de photocopier le cours. Après, les étudiants vont me donner, je vais essayer de photocopier. Et pour les explications, bon, j'ai raté, franchement.
Fondée en 1957, l'université Cheikh Anta Diop a été conçue pour 6 000 étudiants. La capacité a été portée à 25 000 au fil des ans. mais il y a aujourd'hui plus de 100 000 inscrits.
Il faut dire qu'il y a eu un énorme investissement sans précédent depuis les indépendances dans les infrastructures. On a dépensé deux fois plus en 5 ans que ce qui a été fait pendant nos 60 ans d'indépendance.
Pour les experts, c'est une bombe à retardement. Près de la moitié de la population actuelle du Sénégal a moins de 14 ans, ce qui représente une explosion démographique imminente. Pendant ce temps, le secondaire continue de produire des nouveaux bacheliers. Les frustrations se transforment régulièrement en manifestations, bien que les tensions se soient atténuées par rapport aux années précédentes.
Cette année, nous autres étudiants, nous nous sommes vraiment battus pour ne pas qu'il y ait de grève venant de nous-mêmes. Et aujourd'hui, ça a payé, au moins, on a pu retrouver en tout cas le rythme.
Malgré cette situation alarmante, les étudiants ne désespèrent pas et font de leur mieux pour assurer leur réussite.
Plus de jeunes et donc plus de candidats aux études supérieures en Afrique dans les décennies à venir. Professeur Silla, imaginez-vous des systèmes universitaires africains avec encore plus d'étudiants ?
Oui, et ça c'est le véritable problème. On a déjà trop d'étudiants dans les universités. Quand vous rendez à l'université de Dakar comme à Saint-Louis, il vous arrive de constater que les amphis sont hyper bondés et les étudiants se déplacent, sont obligés d'arriver tôt pour pouvoir avoir une place et entendre parfaitement le professeur prendre la parole. Et quand vous vous rendez dans le campus social, c'est-à-dire là où vivent les étudiants vivent dans des chambres de 9 mètres carrés, quelquefois à 5 ou 6, parce qu'effectivement, il n'y a pas assez d'infrastructures de lits pour accueillir ces étudiants. Les conditions de vie des étudiants au Sénégal sont exécrables, inadmissibles. Effectivement, l'État va dire qu'ils vont investir un certain nombre de lits, etc. Mais le problème est beaucoup plus complexe et va s'accentuer avec le nombre de bacheliers qui arrivent tous les ans. Les conditions de vie, les conditions de restauration, l'accueil des étudiants, les débouchés, puisque les étudiants ont aujourd'hui, même ceux qui restent à l'université, ont le sentiment qu'il n'y a pas de débouchés après leurs études. Et parce que tout simplement, il y a une mauvaise gouvernance universitaire et les politiques qui auraient dû investir dans les débouchés pour permettre aux étudiants de trouver un emploi, d'avoir des stages, n'ont pas investi dans les secteurs où il fallait investir, n'ont pas mis l'argent là où il fallait le mettre. On est encore dans les dépenses de prestige, dans les achats de voitures, dans la création d'institutions, dans des dépenses totalement futiles et inutiles qui auraient pu servir à placer les étudiants qui incarnent l'avenir dans des conditions d'études, on va dire, optimales.
Ibrahim Akan, sans un système éducatif capable d'absorber le nombre grandissant de jeunes, les pays africains pourront-ils se développer ?
Madame, vous savez, ce que le professeur a dit est tellement vrai qu'il y a, en 1991, l'UNESCO avait organisé une réunion à Jomtien, en Asie, quelque part, je pense en Thaïlande, pour réfléchir sur la problématique de l'éducation. Et à cette époque, un universitaire burkinabé, Joseph Kizerbo, disait que les sociétés africaines étaient des sociétés suicidaires. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas mis l'accent sur l'éducation et ils n'ont pas conçu leur système éducatif pour répondre aux problèmes qui se posent dans leur société. Et donc, on se trouve en face aujourd'hui d'une université qui a 100 000 étudiants, dont 90% ne vont servir à rien. Seuls 10% sont utiles à la société parce qu'ils ont reçu une formation adéquate. Et les 90%, qu'est-ce qu'on va en faire ? Personne ne sait. Et c'est ça qui crée un grand, grand, grand problème dans nos sociétés. Tout à l'heure, vous parliez des bourses. La bourse, entre autres, est devenue une solde pour les étudiants, enfin, un salaire. Et donc, les étudiants vont tout faire, même s'ils ne réussissent pas dans une filière, ils vont chercher à aller dans une autre filière parce qu'ils sont convaincus d'obtenir au moins de l'argent qui vont leur permettre de survivre. Donc, vous voyez que le système éducatif, dans sa totalité, est en totale inadéquation avec les besoins et les réalités du pays. Et ça, ça va continuer parce que on parle tout aujourd'hui du supérieur, mais si vous jetez un coup d'œil sur le secondaire et sur l'enseignement primaire, c'est encore pire.
que le cas du Sénégal au niveau du primaire, par exemple, la moitié des écoles, madame, du Sénégal, vivent avec des abris provisoires, c'est-à-dire des cases. On s'approche de la saison des pluies. Quand la pluie va commencer, l'école sera fermée. D'accord. Parce qu'il n'y a plus de moyens pour maintenir les élèves dans les structures scolaires. Donc vous voyez que le problème est très profond.
Est très profond. L'élection présidentielle est prévue en février 2019. La candidature de Macky Sall est probable. Diane Gomme, est-ce que les mesures annoncées par le président sont politiquement motivées, d'après vous ?
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, je voudrais dire que cette batterie de mesures que le président de la République a pris répond à des questions politiques. En fait, une campagne déguisée pour pouvoir, en tout cas, satisfaire le monde sédentaire, mais aussi satisfaire une vieille, en tout cas, comment je peux l'appeler, un vieux programme. Si on se rappelle, je ne parle pas du PSE, dans le Yone Yokouté, qui constitue le premier programme, le premier plan d'action de Macky Sall, il parlait d'une revalorisation des bourses d'étudiants. Donc si aujourd'hui on lui a donné la perce de pouvoir appliquer ces mesures-là. Maintenant, je voudrais rebondir sur une chose. Le professeur a signalé le nombre pléthorique dans nos chambres, ce qui est effectivement vrai. Je donne un exemple. Le nombre d'étudiants aujourd'hui à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a besoin d'un logement et peut avoisiner les 30 000. Or, le campus social ne dispose pour l'instant que d'environ 5 000 lits. Vous pouvez faire le ratio vous-même. Ça veut dire que la demande est largement supérieure à l'offre. L'autre chose, revenant sur la question de la bourse, je pense que ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de système, comme l'a bien dit le professeur. Il faudrait revoir le système par lequel on paye les bourses des étudiants sénégalais.
Alors, l'émission touche à sa fin, je vais quand même donner la parole à Idriss Fall.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'ici. Et que les États africains, quelqu'un a dit, gouverner, c'est prévoir. On sait que dans 30 ans, on aura le plus d'enfants au monde, mais on ne se prépare pas. Tous les problèmes qu'on pose là sur l'éducation au Sénégal, ils existent depuis très longtemps. Les grèves des étudiants, depuis très longtemps, existent. Et qu'il n'y a aucun État qui l'a réglé. Le professeur Sylla faisait allusion à ces étudiants-là qui sortent, qui n'ont pas de travail. Et que 90% vont se retrouver où? Gouverner, c'est prévoir. Et que tous les gouvernements qui sont succédés au Sénégal n'ont jamais pris à bras le corps pour régler de manière définitive la question de l'éducation au Sénégal. Et on tourne en rond. Et c'est le pays qui perd.
Pour finir, le manque, les jeunes et le manque d'emploi que vous êtes en train de souligner, c'est un problème sécuritaire sur le long terme?
Je pense qu'on le répète souvent. La jeunesse africaine, c'est une bombe à retardement. Soit on règle la question de la jeunesse et pour leur donner les moyens de travailler dans leur pays, pour leur donner de l'espoir, tant mieux, c'est-à-dire mettre à profit cette force, ou bien l'Afrique sera un continent à problème. C'est prévisible, c'est-à-dire qu'on envoie les signes précurseurs, les enfants qui meurent dans le désert là-bas pour atteindre l'Europe, la criminalité qui a augmenté à Dakar et partout, à Kinshasa et à Lubumbashi. C'est fondamentalement le même problème. Il faudrait que les gens aient des politiques hardies en direction des jeunes.
Eh bien, ce seront les mots de la fin. Diane Gomme, Ibrahima Sylla, Ibrahima Kane, Idriss Fall, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.